peut-être commencer par quelques mots sur la situation épidémiologique. Alors, parce qu'on l'a vu dans les derniers jours, on s'en est tous rendu compte, puis on pense que c'est quand même une bonne nouvelle, on a atteint un certain plateau. Vous allez voir encore avec les résultats, là, on le voit. Et nos experts en santé, donc, ce matin, il y a eu une publication de nos gens de l'INESPQ qui montre aussi une stabilisation du côté des hospitalisations. Encore une fois, je pense que c'est une bonne nouvelle. Par contre, le nombre de cas, on le voit dans certaines régions, par exemple, Chaudière-Appalaches, Capitale-Nationale, il y a quand même des cas qui continuent d'augmenter. Puis le docteur Arruda me faisait remarquer aussi, dans les derniers jours, là, les cas qui continuent d'augmenter dans les 0-11 ans, particulièrement parce que ceux qui ne peuvent pas être vaccinés, les cas dans les écoles. Je le rappelle que les gens qui rentrent à l'hôpital sont malheureusement des gens qui tombent malades, mais c'est ceux qui ne sont pas adéquatement vaccinés. Par contre, je veux qu'on reste prudent parce que je dis que c'est des bonnes nouvelles puis qu'il y a un plateau, mais on l'a vu lors de la deuxième vague, puis qu'on avait eu un plateau à la mi-septembre. Et après ce plateau-là, il y avait une augmentation importante des cas et des hospitalisations en ce moment. C'est très difficile de comparer la deuxième vague et la quatrième vague, mais moi, je voudrais juste qu'on reste prudent avec le plateau qu'on a en ce moment, parce qu'on a une situation qui est différente. Oui, il y a la vaccination en ce moment, qu'on n'avait pas dans la deuxième vague, mais il y a le variant qui est aussi beaucoup plus dangereux que ce qu'on avait. Alors, et c'est d'ailleurs pour ça que je dis qu'il faut qu'on reste prudent, parce que là, on le voit, là, on est rendu à la mi-septembre, les froids vont arriver, les gens vont rentrer à l'intérieur, puis on le sait, que les contacts n'ont pas le même impact lorsqu'on est à l'intérieur. Donc, je veux qu'on reste prudent. La pression, pour moi, sur les hôpitaux a continué d'être là. Vous l'avez vu, là, ce matin, on a quand même presque une trentaine de cas supplémentaires qui sont rentrés dans les hôpitaux, puis c'est à peu près une moyenne là, qu'on voit depuis quelques jours, d'environ 25 cas en moyenne d'entrée. On réussit à avoir des sorties à peu près équivalentes, mais c'est quand même à chaque jour 25 cas qui viennent. Puis, je le répète, tannant avec ça, vous êtes tanné de m'entendre, mais les non-vaccinés ont 30 fois plus de chances de rentrer à l'hôpital et ultimement d'aller aux soins intensifs. Donc, s'il vous plaît, allez vous faire vacciner. L'annonce d'aujourd'hui porte sur ce qu'on appelle maintenant la troisième dose. L'annonce d'aujourd'hui, si on regarde les dernières semaines, on voit qu'on recommence à avoir des éclosions dans ce qu'on appelle nos milieux de vie. Je sais que vous connaissez bien la terminologie, là, nos CHSLD, nos résidences pour personnes âgées, nos RPA, ce qu'on appelle nos ressources intermédiaires et de type familial, les RI-RTF. C'est un jargon que tout le monde connaît maintenant, mais je le répète de temps en temps. Puis je dis, malgré un excellent taux de vaccination, puis je remercierai jamais assez les Québécois d'avoir le taux de vaccination qu'on a aujourd'hui, mais malgré ce bon taux de vaccination-là, là, dans le dernier mois, on est passé d'à peu près une dizaine de cas actifs, donc au début de septembre, puis on a maintenant 140 cas actifs dans nos CHSLD, dans nos RPA et dans nos RITF. Je dirais que c'est rien de dramatique, mais si on veut rester en avant de la parade, si on veut être certain qu'on n'échappe pas à la situation dans nos résidences de milieu de vie, il faut poser un geste. Puis, en se basant sur les recommandations du comité d'immunisation, la santé publique, l'équipe du docteur Arruda, a pris une décision administrative qu'on vous annonce, là, le document va être prêt cet après-midi, d'administrer une troisième dose aux gens qui sont dans ces milieux de vie-là, CHSLD, RPA et RITF, parce qu'on voit qu'il pourrait y avoir une diminution de l'efficacité vaccinale après un certain temps. On l'a vu dans d'autres pays aussi. Et c'est encore plus important d'agir parce que ce sont, on l'a toujours dit, des personnes qui sont beaucoup plus vulnérables. Donc, ce qu'on veut donner à ces gens-là, c'est la meilleure immunité possible, le plus rapidement possible, étant donné le variant. Et donc, ce qu'on va faire, puis je pense que c'est les gens vont se rappeler, on veut profiter de la campagne de vaccination qu'on fait habituellement à l'automne pour les autres virus. Puis, je pense notamment à la question de l'influenza. Donc, la recommandation de la santé publique dit que l'intervalle entre la deuxième dose et la troisième dose doit être d'environ 6 mois. OK? Je vous rappelle que nos personnes vulnérables, CHSLD, RPA, ont été vaccinées entre mars, avril. On pourrait dire que c'est des deux principaux mois. On a fait la deuxième dose, la deuxième dose. Donc, on n'a aucun enjeu de respecter le 6 mois d'intervalle parce que je dis que ces trois catégories de personnes-là ont été vaccinées en mars, avril. Donc, de les vacciner vers la fin d'octobre, c'est ça qu'on a demandé à l'équipe de M. Paris ici, de mettre tout en place la logistique, Dieu sait qui connaît ça, pour qu'on soit capable de faire une troisième dose à la fin d'octobre, mais d'en profiter parce que les gens dans les CHSLD, vous savez, ils ne peuvent pas se déplacer. On va faire un peu une campagne de vaccination. Comme on avait fait, on va dans les RPA et on vaccine les gens sur place et on en profitera pour faire la vaccination pour l'influenza. Je tiens à vous le dire à l'avance parce que je suis certain que vous allez nous poser la question. Qu'en est-il pour les autres personnes âgées? Pour le moment, il n'y a pas de recommandation spécifique parce que, premièrement, et Dr Arruda pourra répondre, il n'y a pas de situation épidémiologique qui le justifie, mais je le rappelle, on s'ajustera aux besoins, mais pour le moment, ce sont que pour les personnes qui sont dans ces trois catégories-là. Pour terminer, je voudrais vous faire un peu le point sur le recrutement, ce qu'on a annoncé jeudi dernier. Bon. Je veux revenir, en fait, sur cette offensive-là pour non seulement retenir notre personnel, mais, comme on l'a mentionné avec le premier ministre, là, aller recruter des nouvelles personnes. Je veux dire que j'ai eu une excellente réaction de nos PDG puis de nos équipes ici. Je pense que vous l'avez vu, là, déjà, il y a plusieurs PDG qui se sont mobilisés, qui ont contacté des personnes. Je le répète parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont dites sur les montants en cause, etc. Notre objectif, il est très, très clair. C'est d'offrir une meilleure qualité de vie à nos professionnels et, je le répète, d'éliminer le temps supplémentaire obligatoire. Je veux qu'on prenne soin de nos employés comme, en fait, le premier ministre l'a dit, qu'ils prennent soin de nous. Et ce que je vais faire au cours des prochaines semaines, rapidement, je vais vous tenir informés de comment va l'engagement des personnes. On a eu quand même beaucoup d'appels qui ont été faits. Il faut se donner un petit peu de temps de réaction pour voir comment on a de personnes qui vont s'ajouter à nos équipes. Mais je le sais, et c'est ce que j'ai dit encore dans les derniers jours au PDG, ça va nous prendre des succès pour que les gens croient qu'on est capable de changer le cours des choses. Et je crois que nos PDG, notre ministère, va trouver des solutions innovantes pour que le nouveau modèle de gestion qu'on met en place puisse être applicable. On a aussi beaucoup parlé des autres services professionnels, autres que les infirmières, parce que vous l'avez vu, on a insisté que c'était pour le moment, pour la question de la catégorie 1, étant donné la pénurie de main-d'œuvre majeure qu'on avait dans ça. Mais j'aimerais le souligner parce que j'étais dans un hôpital hier matin. Et j'entendais le commentaire de d'autres qui disent « Oui, mais pourquoi pas nous? » Bon, écoutez, pour moi, chaque profession est importante, mais on a, grâce au travail qui a été fait par la présidente du Conseil du Trésor, on est capable aujourd'hui d'agir avec les infirmières parce qu'on a eu une convention collective, puis ça nous permet d'être capable de travailler sur cette convention-là parce que l'objectif, c'est de l'accélérer. Alors, c'est le message que je voulais passer. Il y aura du travail qu'on va faire, mais en ce moment, notre focus est sur les infirmières. Peut-être en concluant, avant d'aller dire quelques mots d'anglais, je pense qu'il est trop tôt, puis il est vraiment trop tôt pour crier victoire sur le virus. Et c'est ça que je veux rappeler aux gens. Je sais qu'on doit se féliciter d'avoir eu une réaction des Québécois à la vaccination qui a été excellente. Mais on a vu ailleurs que lorsqu'on se réjouissait trop vite, qu'il pouvait y avoir des dérapages importants. Je rappelle aux travailleurs de la santé, puis je voudrais que les gens m'entendent bien ce matin, là, que c'est encore temps d'aller chercher votre première dose. Il y a encore beaucoup de personnes qui ne sont pas vaccinées dans nos travailleurs de la santé. Et, je le répète, il n'est jamais trop tard pour vous faire vacciner. On le voit, pour ceux maintenant qui sont vaccinés, on peut retourner à une semblante normalité. Alors, je dirais à ceux qui ne le sont pas, vous voulez avoir une normalité? Bien, s'il vous plaît, allez vous faire vacciner. I'll switch to English for a few words.
Oui, c'est ça. Alors, de retour avec Valérie Leboeuf, là, pendant que M. Dubé résume ses propos en anglais. Mm-hmm. Qu'est-ce que tu retiens, ma chère Valérie?
Bien, quand même, la stabilisation dans les hospitalisations, ce qu'il a dit, on a atteint un certain plateau, mais ça augmente quand même dans certaines régions. On pense à Chaudière-Appalaches, Capitale-Nationale, mais les cas qui continuent d'augmenter, c'est auprès des jeunes, 0-11 ans. On sait qu'on veut les vacciner eux aussi, mais pour l'instant, c'est pas possible. Donc, pour ce qui est des CHSLD, RPA, ben, ça va se faire troisième dose d'ici la fin du mois d'octobre. Ce qu'il a dit, c'est que ces gens-là ont été vaccinés deuxième dose mars et avril. Donc, oui, on va pouvoir les vacciner vers la fin octobre.
Oui, c'est ça. Il s'est passé suffisamment de temps entre la... Il se sera passé suffisamment de temps, dans le fond, entre la deuxième et la troisième dose, oui, pour qu'on puisse aller de l'avant avec la troisième. Et il a confirmé qu'on va faire ça en même temps que la vaccination pour l'influenza.
Oui, c'est ça.
Bon, tout ça. Alors, on est efficace, hein? Tant qu'à être dans les CHSLD ou les ressources intermédiaires ou les résidences privées.
Oui, oui, oui.
Aussi bien donner deux vaccins.
Dans le dernier mois, on disait qu'il y avait... Ben, en fait, au début du mois de septembre, c'est une dizaine de cas actifs de COVID. On est à 144 cas actifs aujourd'hui. Donc, c'est la raison pour laquelle on y va avec la troisième dose aussi.
Bon, puis il est revenu sur sa campagne 4000 offensive pour recruter 4000 infirmières pour les ramener dans le réseau public. Il dit qu'il y a eu une bonne réaction des CIUS.
Les PDG, oui.
Les CIS et les CIUS qui ont, pour certains d'entre eux, en tout cas, sont entrés en contact avec les infirmières, essayer de les convaincre de ramener. Mm-hmm. Puis là, il dit qu'il va nous tenir au courant de ses progrès.
Ouais.
Hein, au fur et à mesure où ils vont en convaincre de revenir.
Mais jusqu'à présent, j'imagine qu'ils n'ont pas convaincu beaucoup de monde parce que là, pour l'instant, on dit qu'on va attendre.
Oui, mais ouais, en fait, ils savent pas. Hier, dans l'entrevue, je parlais avec le PDG du CIUS de l'Est,
oui,
donc Maisonneuve-Rosemont, puis il me disait qu'il y avait espoir d'en convaincre pas loin de 100, là,
89.
Ouais, c'est bravo. Oh,
je t'écoute.
Excellente mémoire. 89. Alors, il y en a 89 qui sont à l'écoute. Est-ce qu'il va être capable d'en convaincre 89? On verra bien. Mais on sent là, qu'ils ont amorcé des discussions avec certaines d'entre elles.
Oui.
Et puis, évidemment, c'était inévitable. Il y en a des professionnels en soins qui disent, des soignants
pourquoi
qui disent,
nous?
Ben oui,
c'est
un petit chèque de 12, un petit chèque de 15, un petit chèque de 18.
Ça fait l'affaire. Mais en même temps, comme il a dit, la convention collective est signée. Puis en ce moment, ben le focus, c'est sur les infirmières.
C'est ça. Et puis, il a rappelé aux soignants, allez vous faire vacciner, pour ceux qui ne le sont toujours pas.
Il y en a qui n'ont toujours pas reçu leur première dose. Puis le 15 octobre, là, c'est dans deux semaines.
Ça s'en vient vite. Puis même si tu vas chercher ta première dose aujourd'hui, il va falloir que tu attendes 4 semaines avant d'avoir ta deuxième.
Oui.
Hein?
Non, c'est ça. C'est
même
peu...
si tu y vas maintenant, là, tu vas être suspendu sans solde quand même pendant quelques semaines en attendant la deuxième dose.
Puis je voulais te dire, il y a Pfizer qui a soumis ses données aux régulateurs américains. Là. Les données, je parle pour la vaccination des enfants. Ils ont soumis ça aujourd'hui à l'Agence des médicaments américaine, donc pour voir quand est-ce qu'on va pouvoir finalement autoriser la vaccination chez les enfants. On dit que chez Santé Canada, ben on ne sait pas exactement non plus quand ça va se faire. Il y a une demande formelle pour une autorisation d'utilisation en urgence qui devrait suivre dans les prochaines semaines. Ça, c'est aux États-Unis. Mais ici, au Canada, on attend toujours aussi.
Question.
Quel vaccin on va administrer aussi? Puis, est-ce que c'est parce qu'on a remarqué une baisse de l'efficacité ou c'est vraiment seulement de façon préventive pour le moment?
Oui, il faut comprendre que c'est une dose qu'on appelle de rappel. Hein? C'est pas le calendrier de base, c'est deux doses, sauf pour les immunosupprimés, c'est trois, donc c'est une dose de rappel. À fin août, j'ai demandé l'opinion au CIC si on devait donner une dose de rappel à certaines populations. À l'époque, la réponse était non. Maintenant, il y a des données qui ont été publiées dans la littérature où on a vu que, par exemple, on sait que les personnes âgées, on sait que les personnes très vulnérables, ceux qui ont des maladies chroniques, peuvent moins bien répondre au vaccin à long terme. Donc, il y a effectivement ce qu'on appelle un phénomène de diminution de la réponse immunitaire avec le temps, particulièrement dans ces groupes-là. Et puis, de façon concomitante, tout récemment, depuis une semaine ou deux, on observe des éclosions, notamment dans les CHSLD et dans les RPA. Donc, dans ce contexte-là, compte tenu des données dans la littérature qui sont récentes aussi, compte tenu du fait qu'il n'y a pas d'effet néfaste à donner une dose de rappel dans ces clientèles-là, on va procéder à cette vaccination-là en concomitance aussi avec le vaccin d'influenza qui est indiqué aussi pour ces populations-là.
Oui, puis si je peux compléter là, sur le volet là, des vaccins qu'on va administrer, ça va être des vaccins ARN messager, là, des Moderna et des Pfizer. C'est le vaccin qu'on avait administré, là, si on se rappelle, lors des premières et deuxièmes doses pour ces groupes d'âge-là. Fait qu'on les en banque, donc c'est pas ça qui va nous retarder là, pour administrer là, les doses dans ces établissements-là.
Merci. Également, peut-être une question pour vous, M. Dubé, concernant ce plan de recrutement là, pour les infirmières. Bon, vous avez fait un peu un appel au ralliement, là, parce que votre plan a été largement critiqué dans les derniers jours, là, depuis sa présentation. Et vous avez un peu dit que vous avez une obligation de résultat. Vous parlez de succès pour montrer que ça va fonctionner. Est-ce que votre plan est mal compris en ce moment ou c'est peut-être que la solution proposée, c'est pas nécessairement la bonne?
Bien, écoutez, je vais répéter des choses que j'ai dites, puis je pense qu'on peut toujours s'améliorer. Moi, je pense que des fois, si le plan est mal compris, c'est peut-être parce qu'on l'a mal expliqué, puis je vais en prendre la responsabilité parce que je l'ai annoncé. Mais il y a deux choses que je dirais. Je comprends aussi les doutes du personnel de la santé qui s'est fait promettre des plans semblables depuis de nombreuses années, puis qu'il n'est rien arrivé. Alors donc, je peux comprendre des doutes. Moi, ce que je dis aujourd'hui, puis je le dis réellement, là, j'ai vu lors du processus de vaccination un changement d'approche qui a été excessivement payant, autant pour le personnel de la santé que pour les patients. Alors moi, c'est ça que j'ai en tête, là, ce changement de culture-là, de mieux traiter nos employés, d'avoir un service à la clientèle qui est important. On l'a vu dans la vaccination. Donc, je vais vous dire, c'est pour ça que je vais être de plus en plus dans les hôpitaux pour rencontrer les infirmières directement, écouter ce qu'ils ont à me dire. Hier, là, je peux vous dire, hier matin, là, j'étais à l'hôpital Pierre Boucher, là, et les infirmières que j'ai rencontrées, là, ils comprennent le plan. Ils savent ce qu'il faut faire. Ils savent qu'il faut arrêter le TSO. Ils savent qu'il faut qu'on arrête d'utiliser les agences. Ils m'ont parlé de planification locale des horaires. On sait ce qu'il y a à faire. Donc, est-ce que le plan a été mal compris? Peut-être. Mais je pense que les gens sur le terrain nous ont dit clairement ce qu'ils voulaient qu'on fasse. Alors, pour moi, c'est une question de... Je dis souvent que la preuve est dans le pudding. C'est à nous d'être sur le terrain, de leur expliquer, mais surtout... dans les prochaines semaines, d'arriver avec des solutions concrètes. Puis c'est pour ça que je vous dis, je vais vous tenir informé de combien de personnes reviennent dans le réseau au fur et à mesure que les gens reviennent.
Olivier Bossé, Le Soleil.
Bonjour. Monsieur Arruda, où en êtes-vous avec vos réflexions et recommandations pour une dose annuelle pour la reprise d'une nouvelle dose de vaccin l'an prochain et l'autre année?
De COVID-19?
Oui, pour tous.
On n'en est pas là actuellement parce qu'on doit voir un peu l'épidémiologie. Là, actuellement, je ne crois pas. C'est peut-être une possibilité. Vous savez, il peut y avoir plein de choses. Hein, on pourrait avoir un variant nouveau qui ferait que le vaccin qu'on a actuellement n'est plus bon puis qu'il pourrait avoir une réaugmentation de COVID-19. Mais on n'est pas à ce stade-ci comme tel. On surveille la chose de très près. Ça va dépendre de l'épidémio. Ça va dépendre des données sur les souches qui vont circuler.
Notre question est sur plus spécifique. Vous avez glissé un mot là, sur la Chaudière-Appalaches, Thetford, la Beauce. Est-ce qu'il y a des mesures supplémentaires spécifiques qui pourraient ou vont être appliquées dans les prochaines semaines?
La mesure qu'on a introduite, je vous dirais, il y a deux mesures qui ont été introduites là, pour protéger et diminuer les éclosions. C'est quand il y a une transmission importante dans la communauté, le port du masque dans les élèves à l'école est porté. Ça, c'est une chose qui a été faite, d'ailleurs, dans la région métropolitaine. On l'a introduit comme ça. Si jamais à Québec, on obtient un certain niveau de transmission, on va ajouter ça. Et compte tenu, je vous dirais, du fait que même si on est vacciné deux doses, on peut quand même transmettre la maladie. Et chez les personnes âgées, on sait que on commence à penser que leur réponse est moins bonne que chez le jeune. On a recommandé le port du masque dans les RPA et dans les milieux. Comme on le fait, je vous dirais, quand on va à l'intérieur d'un centre commercial ou autre. Pour le moment, on n'est pas dans une situation où on a l'intention de faire de grosses mesures populationnelles restrictives. Moi, je pense que le message à porter, c'est qu'on y va progressivement. Je pense qu'on maintient certaines mesures. Il ne faut pas tout relâcher complètement comme ailleurs. On a vu ce que ça a fait comme élément. Puis j'aurais un message à passer aux parents aussi, si vous me permettez. Actuellement, là, l'année dernière, grâce aux mesures sanitaires, la distanciation, le port du masque, le lavage, l'hygiène des mains, on a eu très peu d'infections respiratoires chez les tout-petits. Actuellement, à Sainte-Justine, il y a du virus respiratoire syncytial, qui n'est pas le COVID-19, qui fait que plein d'enfants qui ont des bronchiolites et qui ont des infections virales qui nécessitent des hospitalisations. Donc, mon message, c'est gardons dans cette situation-là, particulièrement quand on est en contact avec de petits bébés ou des enfants, le port du masque, le lavage des mains, etc. Parce que c'est véritablement ça, actuellement, qui nous fait craindre la problématique. Et déjà, Dr. Paterny me disait ce matin que les hôpitaux de Montréal, avec la pédiatrie, là, on commence à avoir des enjeux. Donc, les bonnes mesures qu'on a faites, comme pour Noël, si on prend le lavage des mains puis qu'on fait une certaine distanciation, surtout si on a des symptômes, on va éviter beaucoup de gastro puis d'épidémie.
Caroline Plante, La Presse canadienne.
Oui, bonjour à vous trois. Je me demandais quand est-ce que les enfants de moins de 12 ans vont être vaccinés?
Bien, on attend l'homologation de Santé Canada. Vous comprendrez qu'on prévoit que c'est pas le même, ça va être le même vaccin, mais pas le même dosage. Donc, il faut avoir ces études-là pour le faire. Et selon ce qu'on pense, on devrait être en mesure de commencer une vaccination fin octobre, début novembre, mais on est en attente encore de l'homologation. On est vraiment dépendant de ça. Mais dès qu'on a l'homologation au Canada, les équipes de Daniel Paré là, et le réseau est en train de se préparer pour cette vaccination des 5 à 11 ans, probablement, espérons-le, avant Noël, et éventuellement les plus petits, je vous dirais en janvier, février l'année prochaine, si l'homologation a lieu.
Et puis, combien de membres du personnel de la santé sont encore non vaccinés?
Si je regarde de toute catégorie au Québec, on en a déjà vacciné la moitié de ce qu'on avait comme objectif. On avait 30 000 dans le réseau public. On a à peu près 15 000 en date d'hier, un petit peu plus que 15 000 qui étaient non vaccinés. La moitié de ça est en contact direct avec le patient. Alors, je vous dirais qu'on tourne aux alentours un petit peu plus que 7 000 non vaccinés en ce moment, qui sont en contact direct avec le patient.
Pas vraiment progressé depuis...
Depuis quelques jours, non. Puis c'est pour ça que je le rappelle aujourd'hui, puis j'apprécie votre question, parce que, écoutez, je vais le dire ce que je vais dire, puis il n'y aura pas de surprise. On me demande si on devrait lâcher la pression, puis moi, je dis au contraire. Les gens doivent comprendre, puis on le voit, là, vous avez vu des gens qui sont infectés dans les hôpitaux, qu'est-ce que ça peut faire? Moi, ce que je dis aux gens qui ne sont pas vaccinés, bien, même si vous prenez la décision plus tard, que ce soit aujourd'hui ou demain, puis que votre 30 jours finit le 22 octobre ou 27 octobre, bien, c'est seulement ces 10 jours-là que vous n'aurez pas rempli les conditions. Alors, il n'est jamais trop tard pour changer d'idée. Moi, ce que je dis aux gens qui ont hésité, parce que je regardais un article, puis je ne me souviens pas si c'est du... New York Post ou un de ces journaux américains-là, c'est seulement vers la fin de l'échéancier, par exemple dans l'État de New York, où les gens du réseau de la santé sont allés se faire vacciner parce qu'ils attendaient que les gens soient sûrs que c'est ça qu'ils allaient faire. Mais je vous le dis, on est très décidés. On ne peut pas accepter que les gens de notre réseau de santé ne soient pas vaccinés. Alors, si vous voulez minimiser l'impact que vous allez avoir sur les désavantages, à savoir... d'être sans rémunération pour un certain temps, ben aller chercher la vaccination aujourd'hui, demain, après-demain, parce que le 30 jours peut compter, puis vous serez en mesure d'avoir minimisé l'impact sur votre rémunération. Alors, on n'a pas changé d'idée. Il y a encore, pour moi, toutes ces personnes-là qui doivent aller se faire vacciner.
OK, on continue à suivre cette conférence de presse pour vous. Si jamais il y a de quoi de gros, on y reviendra. Luc Lavoie.
Oui, Bernard.
Réaction.
Réaction, c'était très, très prévu. Ce qui est annoncé, on a plus de détails parce que il nous dit que les... Je trouve l'expression tellement délicieuse. Les CHSLD puis les RPA, tout ça, ça s'appelle des milieux de vie.
Oui, oui.
C'est drôle.
Oui, le problème, c'est que c'est pas toujours des milieux de vie.
C'est ça l'affaire.
Parfois, c'est des milieux de mort, comme on l'a appris dans la première vague. Mais continue.
Bon, donc, il a décidé que ceux qui sont dans les milieux de vie vont être vaccinés à partir de la fin octobre, je crois.
C'est ça, fin octobre.
Mais les gens doivent comprendre que ce n'est pas par groupe d'âge. Si vous êtes un aîné autonome, non, vous ne serez pas vacciné. Ceux qui vont être vaccinés, c'est ceux qui sont dans les CHSLD, les RPA et le reste. Ça, c'est important de le savoir.
Oui, bon point. Il a relancé sur ça. Alors, il a dit sur sa campagne de recrutement d'infirmières, il a dit qu'il va nous tenir au courant du nombre d'infirmières qui rappliquent, là, qui reviennent au bercail dans le réseau public. Donc là, ce qu'on comprend, c'est qu'il veut créer une espèce d'effet d'entraînement. Là. Ça, je trouve que c'est bien, mais évidemment, j'espère qu'il va y avoir des gens qui vont vouloir revenir, que des infirmières vont effectivement décider. Là, tu sais?
Bien sûr, mais j'ai remarqué, comme tu l'as sans doute remarqué, qu'il a changé la façon de présenter ça. Là, il parle d'abord et avant tout ce qu'on veut, dit-il, notre objectif est très clair. C'était pas si clair que ça la semaine passée, mais là, il l'a précisé. Ce qu'on veut, c'est offrir un meilleur environnement de travail et l'élimination du temps supplémentaire obligatoire. Tu vois, c'est simple, là. Les gens disaient, ben oui, mais le traitant, on est rendu qu'on appelle ça le TSO. Je me demande si c'est pas le Toronto Symphony Orchestra, des fois, mais en tout cas...
le temps supplémentaire obligatoire, le TSO.
Ben oui, mais quand je vivais à Toronto, j'avais un billet pour aller là, mon TSO.
Bon, alors, le temps supplémentaire... Arrête de nous mêler, toi, là. Bon.
Le temps supplémentaire, oui. Il dit aux gens, regarde, j'ai deux objectifs, là.
Oui.
Améliorer votre environnement de travail... puis éliminer le temps supplémentaire obligatoire. Alors, oui. Ça dit, en d'autres mots, arrêtez de répandre l'idée contraire. Arrêtez de répandre l'idée qu'on va maintenir le temps supplémentaire obligatoire, blablabla. Ça, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant.
Arruda,
comment son message a été recalibré, oui, Bernard?
J'allais dire Arruda. Arruda s'était tiré le coup là sur la vaccination pour les...
Les
5 à 11 ans, il a dit fin octobre, début novembre.
Avant puis, Noël, a-t-il dit 5 à 11 ans, alors c'est ça.
Puis les plus petits, il dit janvier, février.
Ouais. Ben, moi, j'ai hâte aux 5 à 11 ans, là, parce que j'ai des petits moi-même.
Ouais.
J'aurais pas envie qu'ils soient malades.
Ouais.
Ça va se faire avant Noël. Bon, quand on arrive à plus petit que ça, là, c'est-à-dire vraiment moins que 5 ans, on parle du début de l'année prochaine. Alors, bon. Et quant à ceux qui, dans le personnel de la santé, étaient non vaccinés, il dit que ça, il en reste 7 000. Il y en avait 30 000 au début dans le réseau. Et là, il y en a 15 000 qui ont été vaccinés. Puis il y en a encore 7 000 qui sont non vaccinés.
Ouais.
Alors, il dit, il y a des gens...
7 000 non vaccinés en contact avec les patients. Ces 7 000-là, il faut qu'ils se fassent vacciner. Sinon, ils vont se retrouver sans salaire.
Tu as bien fait de le préciser.
Ouais.
Alors, c'est... il dit, il y a des gens dans son entourage, tout ça, qui disent, il faudrait peut-être relâcher un peu la pression. J'étais très heureux de l'entendre dire, non, je ne la relâcherai pas, la pression.
Non.
On peut pas la relâcher, la pression. Il s'agit du dossier le plus important à l'heure actuelle au Québec, reprendre notre vie normale, puis avoir un système de santé qui fonctionne. Alors, je suis d'accord avec lui. Il faudrait être plus doux avec eux autres. C'est un peu comme ceux qui... Ils sont toujours en train de nous dire, vous savez, là, les gens qui font liberté, bien, eux autres, il faut engager un dialogue avec eux. Non. J'ai pas de dialogue avec eux. Voilà. Comprends-tu? Puis la même chose pour les employés soignants.
Là-dessus, Luc, on a un petit désaccord.
Sur quoi?
Ben moi, je pense que avec les non-vaccinés, il faut garder les canaux ouverts. Il faut pas, il faut parce que de les traiter d'imbéciles puis de les traiter de niaiseux puis de caves, c'est pas un argument, tu sais, c'est pas un argument.
Mais puis Bernard, quand tu te parles de se faire insérer une puce de Bill Gates pour contrôler le monde, là, on est-tu capable de dire que c'est pas des épais?
Non, mais
ce sont les pires épais.
Luc, arrête.
Mais je te le dis.
Arrête, tu vois là, il y en a un qui est mort, là, 27 ans là, un père de famille là.
Mais il avait attendu trop longtemps, puis je suis vraiment triste pour sa jeune famille.
C'est ça, mais là tu vois.
Mais il faut que ça allume les gens.
Toute la gang autour de lui, ses amis là, ben là ils s'en vont se faire vacciner là. Ils ont attendu. Lui
ça
il a attendu.
Pris un méchant
ben,
un
je
méchant
sais,
choc.
Je le sais, mais tu vois, il y en a.
Alors tu veux oui.
Ce que je dis c'est que tu vas me dire faut pas attendre que quelqu'un meure pour aller se faire vacciner. Faut pas attendre que quelqu'un qu'on aime meure pour aller se faire vacciner. Je suis d'accord avec toi. Mais ce que je te dis, c'est que même parmi ceux qui veulent rien entendre, à un moment donné, il peut arriver quelque chose qui va faire en sorte qu'ils vont changer d'idée puis qu'ils vont aller se faire vacciner.
Ou comme Guillaume le Métis Vierge, là, tu te retrouves à perdre le plus gros contrat publicitaire au Québec. Ça, je pense qu'il va se faire vacciner, lui.
Tu sais que ça peut être... quelqu'un qui travaille dans le milieu de la télé me dit... on parle peut-être d'un contrat d'au-dessus d'un million par année.
Moi, j'ai entendu dire un million par année.
Quelque chose.
Alors, il devait y tenir. Il voulait avoir, lui, la version québécoise de Méticago.
Oui.
Arrêtez-vous, là. Tu sais, je veux dire, on va acheter local s'il y en a, là, mais c'est pas ça, là. On veut des vaccins.
OK, Luc, on se reparle un peu plus tard.
Salut.
OK, on s'en va à la pause au retour. Lise Ravary.